Nous sommes mercredi 4 octobre 2017, il est 21 h, bien bien tassé, et vous écoutez le Dojo Bar.
T'amuseras bien.
Bar.
Bonsoir à tous. Ah, excusez-moi, voilà, il me dit vraiment. Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir, bouffe encore parce que je suis à la bourre.
Voilà, mais tout va bien. Bonsoir Drosgar.
Bonsoir, bah moi j'ai rien à la bouche pour une fois.
Bonsoir Galaxies.
Bonsoir.
Que faut que t'arrêtes de faire du bruit avec,
pas d'accord.
Avec ton clavier. Si, il faut que tu arrêtes.
Je suis pas d'accord, je suis
jeune.
Ah oui, il respecte plus. De notre
part,
du respect, on est d'accord.
Je vais finir par porter des cerveaux avec ta gueule.
Oh non, t'as fait un fac de lettres.
Oh mon dieu, il va finir en licence d'art du spectacle.
Pas de
mépris de classe.
Je pense que c'est les pires. Et bonsoir Zergy.
Salut.
Alors aujourd'hui le gros sujet. Alors d'abord, je tiens à m'excuser pour la semaine dernière où il n'y a pas eu d'émission pour une raison de gaz. Un peu.
Tu avais des gaz.
J'avais
n'est-ce
des
pas
gaz.
C'est flageolets midi qui ont mal tourné.
Exactement. Il y avait une très forte odeur de propane dans mes toilettes. Ce qui est quand même pas normal, c'est pas le genre de gaz que tu t'attends à sentir dans tes toilettes. Et j'arrivais pas à voir la voisine du dessous, et ça sentait quand même sacrément le propane, et du coup c'était quand même un peu dangereux, donc je me suis dit bon, j'évacue tout le monde, je vérifie que c'est pas des conneries, j'ai secoué un peu partout, j'ai secoué l'ensemble des compteurs de l'immeuble pour vérifier qu'il y avait rien, Seule explication que j'ai eue, c'est peut-être que c'est une remontée de méthane et pas de propane des égouts, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc si un jour vous sentez une forte odeur de gaz dans vos toilettes, ce n'est peut-être pas de votre faute. Voilà, c'est important.
On peut dire que c'est une situation qui pue la merde.
Non mais elle pue le propane, non, non, non. Ça pue même pas la merde, parce que c'est sur le punir, ok, j'ai largué une grosse caisse tout à l'heure, voilà, mais là même pas. Ça sentait vraiment comme si t'allumais ta gazinière et que j'essaie allumer, quoi. Donc c'est... Bref. Voilà, et donc pour cette émission, donc l'émission de la semaine dernière, qui était un sujet passionnant, extrêmement bien préparé, avec des intervenants de qualité et des remarques impertinentes à tour de bras, eh bien nous la referons un autre jour. En fait, le sujet, on va se le garder dans un petit coin de la tête et puis on le ramènera un de ces quatre. Du coup, on reprend le planning comme prévu et aujourd'hui, on va parler de Samus, enfin de Return of Samus. Samus Return.
Samus Résultat.
Samus revient parmi les tiens.
Putain, ça y est. Vous chantez, je vous jure, je vous en colle une.
Aben.
Samus revient.
Voilà, je savais qu'il allait le faire. Donc on va parler de ça, mais tout d'abord, nous allons commencer par le tour de table de l'actualité. Et Antix voulait nous parler de Stardew Valley.
Ouais.
Au moment où je suis en train de bouffer, c'est pas très malin.
Bon d'accord, alors Drosgar voulait nous parler de la création du syndicat des travailleurs du jeu vidéo.
Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le droit social, c'est cool.
Je sais pas, de ton point de vue d'étudiant en droit, est-ce que le droit social c'est cool? Je ne suis pas sûr.
Ouais.
Alors, le droit social en général, oui, sauf la partie droit de la sécu. Parce que putain, j'ai un commentaire à faire pour demain, je l'ai pas fini, et autant vous dire que je vais pas dormir de la nuit.
Tu vas te prendre une tôle.
Ouais.
Oui, mais comme d'habitude, ça.
Donc,
comme
la création,
l'a dit notre cher
voilà.
Mortal, est-ce que vous connaissez le syndicat des travailleurs du jeu vidéo? Si vous répondez oui, c'est pas normal parce que ça vient juste d'être créé.
Alors, moi,
c'est tout nouveau.
Moi je connais parce que je suis partie des gens qui ont Twitter et qui du coup s'informent de l'existence des syndicats de jeux vidéo.
Eh ben c'est bien alors monsieur le tweet addict, hein, c'est ça se joue les post-90, hein, bravo.
Sinon tu peux pas nous expliquer ce que c'est plutôt que de foutre de ma gueule?
Si mais c'est à cause de toi, là, t'es en train de prendre la parole et tout, j'aime pas ça. Et donc, en fait... Ce qui est un peu compliqué avec le droit social en général, c'est d'arriver à appréhender les nouvelles technologies en général et tous les nouveaux modèles de production, les nouvelles industries, etc. À chaque fois, en fait, dans le droit social, il y a des conventions collectives qui sont faites au niveau de la branche, c'est-à-dire au niveau d'une catégorie d'entreprise. Et pour ce qui est des jeux vidéo, vu que c'est un domaine qui est assez récent, le droit n'a pas forcément suivi derrière. Donc, il y a de gros problèmes au niveau du droit du travail dans les entreprises qui conçoivent les jeux vidéo.
C'est pas du... Ils sont pas considérés comme les entreprises de logiciels avec le truc Syntec?
Alors si, justement, ça dépend en fait des boîtes, mais t'as deux conventions collectives qui sont prises, donc t'as la Syntec et t'en as une seconde qui a un truc qui n'a rien à voir, c'est les...
Producteurs de cinéma, une connerie comme ça?
Ouais, c'est peut-être un truc dans le genre, mais c'est un truc qui
c'est ça,
semble
c'est
très éloigné.
C'est un truc de spectacle ou je ne sais quoi, mais en fait qui correspond au... à la branche en gros culture, média culture, quelque chose comme ça. Mais c'est assez flou.
C'est ça, oui.
ça regroupe énormément de trucs, ça regroupe aussi bien...
Même la Syntec, il y a les cabinets d'ingénieurs conseils, par exemple.
Ouais, le Syntec, c'est un peu n'importe quoi, parce que t'as aussi bien les producteurs de logiciels que les sociétés de conseil, que les sociétés d'intégration en informatique, que les hébergeurs, que... Voilà, ça regroupe des métiers aussi divers que OVH, qui est un hébergeur, et Sopra, qui est un éditeur de logiciels.
C'est ça, et au final, c'est compliqué.
En passant par tout un tas d'autres trucs.
C'est compliqué derrière d'arriver à appréhender tout ça en une seule unité, parce qu'au final c'est quand même ça le but à la base des conventions collectives, c'est essayer de trouver des accords communs dans des domaines qui correspondent un peu les uns aux autres, parce que forcément t'as une même demande quand les domaines se retrouvent les uns dans les autres. Sauf qu'au final là on parle quand même de création de produits culturels, mais aussi de produits économiques, et derrière ça correspond pas du tout à cette convention collective. Et au-delà de ça, des entreprises qui vont être assez récentes ont parfois du mal à respecter le droit du travail. Pour cela, j'ai beau pas être forcément de gauche, les syndicats sont quand même une très bonne alternative au maintien de l'employeur, si vous voulez. Et même s'il existe déjà des syndicats en France, comme le SNJV, donc le Syndicat National du Jeu Vidéo, ceux-là sont en général plus tournés vers les entreprises. Donc celui-là, justement, il est ouvert aux personnes morales.
Voilà, mais là, ce que le CNJV, c'est quand même beaucoup plus une organisation patronale, c'est plus une espèce d'association d'entreprises en réalité qu'un véritable syndicat. Ça porte le nom de syndicat, mais on se demande bien pourquoi. C'est plus une espèce d'association de promotion nationale des produits du jeu vidéo.
C'est ça, c'est juste pour essayer un peu de faire découvrir le médium un peu de manière plus générale, on va dire, que de vraiment protéger les intérêts salariés.
Tout à fait, c'est beaucoup plus pour le présenter aux investisseurs, par exemple, ou des choses comme ça, pour être capable de dire on a l'appui d'une organisation nationale qui s'occupe de jeux vidéo. C'est beaucoup plus dans cet ordre-là.
Un petit peu comme le SE2L. Non.
C'est à peu près le même genre, ouais, effectivement. Alors le SE2L, c'est le syndicat des entreprises du logiciel libre.
C'est logiciel libre, non, c'est logiciel de musique.
Éditeur de logiciels de loisirs.
Pardon,
de
loisirs, excusez-moi, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus un truc
de loisirs.
Excusez-moi. Parce qu'il y a aussi un truc qui s'appelle, effectivement, je crois que c'est le syndicat des entrepreneurs du logiciel libre, qui s'appelle aussi le SEL.
Ah oui.
Ouais, c'est con ça.
C'est très con, qui permet effectivement des entreprises qui font du logiciel libre ou qui intègrent du logiciel libre ou qui promeuvent du logiciel libre d'être regroupées sous une convention qui leur permet d'avoir, on va dire, des conditions communes et effectivement une existence juridique qu'ils n'auraient pas eu autrement.
C'est ça.
Et le SNJV, ils sont. Parce qu'on a dit que c'était pas un syndicat, mais en fait, c'est pratiquement du lobbying qu'ils font. C'est même plus, c'est de la promotion, mais c'est aussi vraiment reconnaître le jeu vidéo. Et souvent, les études où tu verras que le jeu vidéo rapporte plus que le cinéma, enfin, des études réalisées en France.
Oui, c'est le SNJV qui l'a fait.
Voilà, c'est souvent eux qui ont commandé ça en bidouillant un petit peu les chiffres parce qu'ils jouent DVD par exemple, en genre de cas.
Mais du coup, c'est vrai que là, de ce côté-là, on n'atteint pas du tout la même ambition que le STJV dans ce cas-là. En France, il y a environ 23 000 personnes qui vivent de près ou de loin du jeu vidéo. Donc de loin, ça peut être le simple revendeur à la Fnac, par exemple. Donc c'est vrai que ça reste assez large et ça touche assez peu de monde, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Mais ces personnes-là sont vraiment en situation précaire. Et on le sait, plus ou moins, les personnes qui sont en situation précaire n'ont pas tendance à se syndicaliser. Pardon, c'est plutôt ceux qui ont une situation stable. En France, c'est plutôt de l'ordre de 11-12%, je crois, l'auto-syndicalisation, en confondant public-privé. Et... derrière, c'est vrai que autant tout ce qui est développeur vont avoir une situation un peu plus stable, autant ceux qui vont être graphistes, level designer, game designer, etc. vont eux avoir une situation bien moins stable, bien plus précaire, et ceux-là vont pas du tout avoir tendance à se lier à ce genre d'association parce qu'ils ont vraiment peur d'être grillés dans le milieu. Et pareil, pour ceux dont les employeurs vont avoir tendance à abuser un peu de la flexibilité du droit du travail, si on peut appeler ça la flexibilité, ils ne vont pas forcément avoir tendance d'aller au prud'homme, parce que vu que c'est un milieu qui est quand même assez petit, ils savent qu'il y a des chances que ça se sache derrière, ils n'ont pas envie d'être grillés dans le milieu. Un ouvrier qui va aller au prud'homme, il aura toujours de la chance de repartir ailleurs. Un développeur, ça va être tout de suite plus compliqué en France.
Donc compliqué, effectivement, parce que le milieu est plus réduit, parce que quand tu as des milieux très réduits, les réputations jouent beaucoup.
Ça, c'est sûr.
Et que du coup, effectivement, il y a un déséquilibre certain entre l'employeur et l'employé. C'est-à-dire, effectivement, l'employeur... Un certain ascendant sur l'employé, ne serait-ce que parce que c'est un milieu dans lequel il y a énormément de freelance aussi, et que effectivement quand on est en freelance, et malheureusement il y a un moment où on est quand même obligé de payer ses factures et donc de bosser et donc d'accepter parfois des conditions qui sont pas toujours idéales.
C'est ça. Et puis on retrouve souvent le discours du on est là pour la passion, si tu veux pas le faire, bah il y en a 40 qui vont prendre ta place, donc si t'es pas content, tu dégages.
C'est Julien Chiez, la passion.
La passion. Il y avait un très bon...
Pardon, Julien Chiez. Le discours sur la passion, j'en ai vu pour avoir rencontré quelques acteurs du jeu vidéo à Paris. Des mecs qui disaient, oui, moi je suis prêt à rester à 21h à mon boulot parce que ça me plaît et tout. Donc oui, y a quand même, c'est quand même un milieu de passionnés. Après, moi je trouve pas ça très sain de rester aussi tard au boulot, mais c'est un avis purement personnel.
Non, moi non plus, mais même si je vais devoir le faire plus tard, je pense. Mais c'est vrai que du coup, ça fait penser un petit peu à l'article, à la vidéo du 3615 d'Usul sur justement les développeurs qui étaient un peu tournés à la manière de Germinal. Et c'est vrai que c'était assez intéressant le parallèle entre les ouvriers de l'époque et la servitude moderne un petit peu.
Et que je vous conseille de revoir d'ailleurs si vous l'avez pas vu, parce qu'effectivement, c'est plutôt bien vu. Ça reste, bon, Usul est pas quand même connu pour être quelqu'un particulièrement.
Non, il est quand même vachement de droite. Hein.
C'est quand même un sacré gros gauchiste, il faut le savoir. Maintenant, c'est pas parce qu'effectivement on a ce genre d'opinion là que le propos n'est pas pertinent quand même. Donc c'est toujours intéressant à voir.
Parce que même si au final la vidéo est un peu datée, le propos reste actuel. Pour conclure, je voudrais quand même dire qu'il y a déjà eu quelques tentatives comme ça qui ont été avortées avec le temps. Par exemple, fin des années 90, il y avait eu le mouvement Ubifree chez Ubisoft. Mais au final, je pense que le milieu n'était pas encore assez mature pour se lancer dans une telle aventure. Et surtout, avec les récentes modifications du code du travail, donc il y a eu en 2016 et qu'il y a eu cette année aussi en 2017, ça a un peu poussé les travailleurs à se regrouper les uns les autres. Parce qu'ils ont peur, par exemple, des contrats de chantier, ce genre de choses. Au final, je pense qu'il est peut-être temps qu'ils se lancent vraiment, parce que s'ils ne se lancent pas maintenant, ils ne se lanceront jamais. Et on est quand même une époque où on peut trouver facilement de l'aide juridictionnelle, on peut trouver des avocats qui vont les aider, on peut trouver des gens qui sont là pour ça. Donc autant profiter et se lancer à fond pour pouvoir essayer de revendiquer un peu leurs droits.
Voilà, avec sa pub, quoi.
Bah non, mais je pense qu'il a raison, surtout qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'arriver à se regrouper aussi. Dire Internet a quand même considérablement simplifié ce genre de choses-là, et c'est vrai que les syndicats historiques sont beaucoup plus dans des mouvements de proche en proche finalement que dans des mouvements nationaux ou des choses comme ça. C'est vrai que tu peux pas payer ta cotisation à la CGT en ligne, quoi. C'est un truc à la con, mais je pense que si tu pouvais le faire, il y aurait peut-être plus de gens qui se syndiqueraient. C'est ouais. Un truc aussi con que ça. Là, c'est vrai que l'initiative est plutôt partie dans un état d'esprit quelque chose de national, certes de pas très grand, mais comme tu es dans un milieu très très informatisé, très numérisé, très
voilà, ils vont faire ceci.
Probablement beaucoup de choses sur Internet et ça va probablement leur simplifier la vie. Voilà. Antix sur Stardew Valley, puisque ouais. Maintenant il a fini de manger.
Voilà, je vais faire un peu rapide. Stardew Valley qui avait été annoncé avec la console, enfin, en tout cas en janvier, va finalement sortir demain sur Nintendo Switch. Et ce qui est un peu particulier avec cette sortie, c'est que l'annonce a été faite en fait hier.
Et voilà, c'est... donc Nintendo, roi du timing, hein, comme d'habitude. Ah,
mais c'est pas le premier dans ce cas, puisqu'on a eu Severed, qui était sorti déjà sur Wii U à la base, donc le jeu des gars de Guacamelee, qui a quasiment été annoncé du jour pour le lendemain, si c'était pas même le jour même, sortir automatiquement. Et c'est quelque chose que je remarque pas mal avec les indés sur la console, c'est que les sorties, parfois, vraiment, entre l'annonce de la sortie, de la date de sortie et la sortie elle-même, il y a parfois très peu de temps qui se passe. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que on parle quand même de jeux qui existent depuis parfois plusieurs années. Donc au final, c'est pas un gros événement d'avoir une date de sortie, et c'est toujours sympa de savoir que quand il y a besoin de tirer un jeu rapidement, ben, ça peut être fait sur la console.
Ok. Effectivement, c'est toujours assez surprenant quand même, mais c'est vrai que pour des jeux qui sont déjà sortis il y a plusieurs mois, qu'on annonce les dates de sortie un petit peu à l'arrache, c'est pas grand chose, surtout que je pense que la plupart des gens voient en réalité que le jeu est sorti en ouvrant l'eShop ou en ouvrant les news ou en ouvrant...
Oui voilà, il y a les news et puis on savait que le jeu allait sortir, c'était juste une question de semaine.
Oui, tout à fait.
Au final c'est sympa de savoir que la date de sortie est quand même très proche, quoi qu'on la connaît.
Je pense qu'on le prend peut-être.
Juste une question, est-ce que ce serait pas plutôt le relais par Nintendo le problème? Enfin, et je sais pas si c'était ça que tu sous-entendu.
Je sais pas, parce qu'en réalité, pour moi, il me semblait que Stardew Valley, il a été annoncé, genre, c'est le Twitter officiel du développeur qui a dit « Bon, au fait, ça sort sur Nintendo Switch dans 2 jours. » Je suis pas certain que la com publique de Nintendo ait quoi que ce soit à voir là-dedans.
Oui, bah, le petit retweet, quoi. Enfin, je sais pas.
Éventuellement, ouais.
Est-ce que c'est pas
tout,
ça
hein.
qui... Je sais pas, moi je suis pas le développeur de Stardew Valley, du coup voilà.
Non, mais il me semble que c'était leur Twitter qui l'avait annoncé. Alors il y a aussi un autre truc, c'est que la date du 5 octobre, si j'ai bien compris, c'était la Harvest Moon. Voilà, je crois que c'est une espèce de lune un peu spéciale liée à tout ce qui est récolte et la thématique du jeu. Là, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble avoir lu ça. Le choix de la date est peut-être pas non plus fait au hasard.
Le choix de la date.
Bref. Le doigt de la.
Je l'ai un peu. Ne gâche pas l'œuvre. Monsieur Galaxy avait un petit truc lui aussi, me semble-t-il.
Oui, totalement.
Que tu essayes de posséder depuis tout à l'heure.
Alors, il se trouve que j'ai pas d'actu. Du coup, je vais faire comme les vrais journalistes du recyclage. Alors, nous avons enfin le vrai nom de la NX, nouvelle console de Nintendo, et ce sera la Nintendo Switch. Okay. C'est un peu particulier parce que c'est une console hybride.
C'est-à-dire
jouer sur télé et en mode portable.
Félicitations, tu peux postuler chez Gameblog.
Les choses seront, comme on le savait depuis
Julien
longtemps,
Chies, nous avons
sur cartouche, ce qui laisse espérer le meilleur pour les temps de chargement,
bon
évidemment. Les nouvelles Joy-Con sont des véritables petites pépites de technologie.
Ça suffit, voilà, tu as gagné un mute. Tu reviendras dans 30 secondes. C'est pas possible. Alors attends, on va voir. Il a fini ou pas?
Sérieusement, Nintendo, 90€ les Joy-Con. Et déjà, ces petits lurons d'internet se sont emparés.
Non mais je le remets en neuf, c'est juste insupportable.
Pourquoi on t'invite déjà?
Parce qu'il est là, voilà, faut le dire. C'est un repère de poivrons dans lequel on invite tous les mecs qui passent.
C'est vrai.
Je vais finir par la dernière petite actu rigolote, alors que je voulais faire la semaine dernière où c'était un petit peu plus pertinent, mais cette semaine ça l'est toujours. La Super Nintendo Mini est sortie, vous le savez, et il y a des petits malins sur le Bon Coin. Moi je suis beaucoup les ventes sur le Bon Coin, et j'ai vu des petits malins la mettre à 250€ le samedi avant sa sortie.
Oh putain!
Voilà. Oui, Galaxy, on te censure.
C'est le prix d'une Switch.
C'est le prix d'une Switch, non mais les mecs se touchaient complètement le cul, et en fait ce qui est génial c'est que moi comme j'ai un flux RSS en fait des annonces...
Elle est... L'URSS elle est beaucoup plus disponible que la NES Mini, hein, donc les prix...
C'est ça, en fait c'est rigolo parce que c'était 250€ le samedi, puis toutes les annonces sont passées aux environs de 200€ le dimanche, c'est toujours les mêmes 4-5 connards en fait qui font ça. Le lundi on était à 180, le mardi à 170, le mercredi plus à 150, et puis là c'est descendu au fur et à mesure, et là aujourd'hui je vois... pas mal d'annonces, enfin je vois très peu d'annonces dépasser les 100€, la plupart des gens arrivent à la revendre 80, 85, 90€, rarement plus.
Ouais, le prix d'achat.
Donc le prix d'achat. Mais c'est exactement ça, moi ça m'a bien fait marrer, et voilà, donc je voulais dire à tous les gens qui essaient de revendre leur Super NES Mini sur le Bon Coin en espérant effectivement faire le même coup que la NES Mini, et ben, va te faire enculer.
Ouais, voilà. Et tu devrais plutôt la déballer et jouer à Earthbound parce que c'est un très bon jeu.
Exactement, c'est-à-dire qu'acheter des trucs comme ça pour les revendre, c'est complètement débile, et je suis très 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 content que vous cassiez tous les dents dessus, d'autant plus que j'ai vu des annonces sur le Bon Coin assez hallucinantes, notamment un mec qui avait un carton avec 6 Super NES Mini. Donc clairement, le gars les a achetés vraiment juste pour les revendre, t'en achètes pas 6 pour toi, t'en achètes éventuellement une pour toi, une pour de la famille, mais pas 6. Et le mec essayait de les vendre 200€ l'unité, ça a très bien marché pour lui, puisque maintenant il les vend à l'unité 85€, un truc comme ça, en espérant pouvoir arriver à les écouler.
C'est cool, maintenant il a un deuxième trou de balle.
Exactement, ça me fait très plaisir, voilà, donc c'était juste, n'achetez pas de Super NES Mini sur le Bon Coin ou sur eBay à des prix délirants, il y a du stock, il suffit vraiment juste d'aller en magasin, et il y en a dans les rayons, parce que j'ai jamais vu de NES classique dans les rayons, mais des Super NES Mini, il y en a en rayon, donc allez en rayon, au pire vous ferez 2 ou 3 magasins, mais vous en trouverez une, c'est pas la peine de se fatiguer, voilà.
Même moi j'ai réussi à en choper 4. Non, mais les 3 autres, je les offre. Non, c'est pour offrir au frangin, à Noël ou à un pote.
D'accord, donc ça va, on est encore dans le raisonnable. Mais voilà, vous faites pas avoir par les gens qui essayent de la vendre. Tout le monde est parti du principe que ça se vendrait comme la NES Mini et qu'il allait vraiment y avoir une pénurie, et c'est absolument pas le cas. Du coup, ils se font bien baiser, ça me fait bien plaisir. J'espère que Nintendo va se bouger le cul pour les Amiibo, parce qu'en ce moment, c'est un peu le gros bordel aussi. Entre les modèles Bayonetta qui ont apparemment été tirés, soi-disant, à 3000 exemplaires seulement pour l'Europe, ce qui fait quand même très 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 peu. Il y a d'autres Amiibo comme ça, les Cloud joueur 1, joueur 2 ont apparemment été tirés à un nombre très réduit d'exemplaires. Il paraîtrait que les Chrome et Tiki de Fire Emblem ont été tirés à un nombre extrêmement réduit d'exemplaires aussi. Donc voilà, j'espère que Nintendo va se bouger le cul pour re-remplir les rayons. parce que moi c'est le genre de choses que j'ai pas envie forcément de précommander, que j'ai envie de trouver à prix normal en magasin. C'est quand même pas du tout.
Ah, il y a encore des problèmes d'approvisionnement sur les amiibo.
Oui. Oui, il y a encore. Les amiibo Samus, là, les derniers qui sont sortis justement avec Metroid Samus Returns, c'est quasiment impossible de les avoir. Tu les précommandes à la FNAC, ça te dit que c'est en attente de livraison. En magasin, il n'y a pas moyen d'en avoir. Bref, c'est le bordel. Voilà, nous allons faire une première petite pause musicale. Nous allons vous écouter un thème emblématique de Metroid Prime qui a été repris pour Metroid Samus Returns quasiment à la note près. C'est-à-dire que c'est vraiment...
Je crois que c'est quasiment la même version. Hein.
Je pense que c'est la même version, je suis pas sûr, mais c'est la même version. Galaxy Sinus, de toute façon, Nintendo, si nul, je vais acheter du Microsoft. Voilà.
Qu'on le brûle.
Qu'on le brûle. Donc, c'est les cavernes de Magmoor qui représentent
la. Il reviendra quand il sera majeur.
Putain, on n'est pas sorti. Voilà, nous allons nous écouter donc le thème des cavernes de Magmoor qui a été repris. Alors, c'est la zone chaude, donc chaque fois qu'il y a une zone très chaude dans Metroid Samus Returns, bah, c'est ce morceau-là qu'on entend, et c'est vrai que. Quand tu penses tout de suite à un endroit avec de la lave, des monstres de lave, du feu partout, parce que Metroid Prime, quoi. Voilà, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 4 minutes, à tout de suite.
Comme Samus.
Samus. Putain. Du coup, c'est une nouvelle.
Samus revient pas.
Incroyable. Voilà,
juste Chaminou qui nous a envoyé un petit message durant la pause pour nous dire. Et en plus, alors non seulement la SNES Mini est relativement disponible, mais en plus la NES Mini étant de nouveau approvisionnée en 2018, été 2018 de ce qu'on nous a dit, le communiqué officiel de Nintendo, ça sert pas non plus à grand chose de vous précipiter sur des NES Mini maintenant. Ce sera probablement exactement la même chose. L'année prochaine, voire même il est possible, je sais pas si Nintendo le fera, mais il est possible qu'il corrige les deux ou trois problèmes de la NES Mini, notamment le fait que le filtre Pixel Perfect était pas... le filtre 4 tiers avait un petit artefact qui faisait des petits décalages de pixels un peu désagréables, et le fait qu'il y avait un tout petit peu plus de latence sur NES Mini que sur Super NES Mini. Apparemment, ils ont réussi à corriger ça. Donc peut-être qu'il y aura le firmware V2 de la NES Mini l'année prochaine. Donc pareil, vous faites pas avoir, ça sert à rien d'acheter une NES Mini maintenant, attendez l'année prochaine, à 60€, vous en aurez une, ce sera soit exactement le même modèle, soit le modèle amélioré, peut-être même qu'il y aura, que comme la Super NES Mini, elle sera vendue avec deux manettes, donc voilà, surtout pas de précipitation, ça ne sert à rien. Bref, donc merci Chaminou, gros bisous.
Merci Chaminou.
Et nous allons donc entamer notre gros sujet, le gros sujet, qui est Metroid Samus Returns, qui est donc... officiellement un remake de Metroid 2 Return of Samus. Vous remarquerez que chez Nintendo, les titres, ça les connaît. Hein. Ils se sont dit, tiens, Samus Returns, Return of Samus, ça y est, c'est bon. On a le truc, on va laisser peser.
Le retour de Samus.
Voilà. Merci, monsieur Drosgar.
Je vous en prie, j'ai pas
heureusement vu. Que tu es bilingue.
Parce qu'il est bilingue.
J'ai deux langues.
Oh oh, dit-il en espagnol, car il parlait les deux langues.
Non, oh oh, c'est un Pokémon. C'est un mythe classique.
Ah, ceci dit, Samus Returns, on traduit plus ça par Samus revient. Hein.
Samus résultat.
Samus revient, Samus revient.
Revient pas, Violetti.
Bon, oh, on est quand même...
Je demande l'arbitrage de Reverso.
L'arbitrage vidéo.
L'arbitrage Reverso, l'arbitrage effectivement. Reverso,
ah, est-ce que quelqu'un peut aller sur Reverso et faire Return of Samus et Samus Returns pour voir s'il fait quelque chose? Voilà, je vous remercie.
La traduction de Samus pour voir.
J'ai mes petits
le retournement Loompa, de Samus.
C'est très sexuel.
J'ai mes petits Oompa Loompa qui travaillent avec moi.
Donc, est-ce qu'on doit crier Oompa Loompa pendant qu'on travaille?
Non, ça ira. Franchement, ça va.
Oompa.
Donc, c'est officiellement un remake. Officieusement, il prend quand même pas mal de liberté par rapport au jeu d'origine. Alors, je sais pas qui ici a fait le jeu d'origine. Alors, Galaxy, je te demande pas.
Alors, moi, j'ai pas travaillé dessus, personnellement.
T'es pas né.
Moi, je l'ai, mais je l'ai pas fini.
Tu l'as, mais tu l'as pas fini?
Je crois que j'avais un an.
Non, t'étais même pas né.
Ah.
Samus Return, il le traduit en Samus Retour.
Ah ouais, 91, putain, 4 ans avant ma naissance.
Ah, c'est chaud, hein.
Ouais, t'as
c'est
vu,
super
hein.
chaud. Bah, et... t'avais un an, Antix, ouais.
C'est ce même Super Chozo.
C'est voilà. Donc, Antix, je sais pas si tu avais joué au jeu d'origine, je vais peut-être être le seul à l'avoir joué avec Zergy. En fait, ce qui est un peu... Alors, Samus Returns reprend à peu près la même structure, donc ça reste un Metroid, hein, c'est le deuxième jeu de la série, donc c'est toujours le même principe. Il y a une partie de la carte qui est accessible dès le départ, à peu près 10%, en gros. Donc là, Samus Returns, c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, il y a la première zone qui est accessible, mais pas plus.
Et c'est vraiment... t'as un découpage en niveau... Enfin, c'est comme si chaque zone était un niveau qu'il fallait que tu complètes pour passer au suivant.
Exactement.
Alors que dans le précédent, donc Metroid 1 et dans Super Metroid, c'est plus un grand monde où tu dois trouver les clés qui débloqueront les accès, entre guillemets, pour le reste de la carte.
C'est ça, c'est un système effectivement clé-porte, mais où les portes ont une forme et les clés ont une forme un peu particulière, puisque les clés, ça va juste être des upgrades de ton armure, de tes armes,
des missiles.
Voilà. Et les portes, effectivement, ça va être alors, soit des véritables portes physiques qui peuvent être ouvertes qu'avec un lance-missile ou qu'avec le laser X ou Y, soit effectivement, le truc c'est trop haut, il te faut les super bots pour pouvoir sauter et atteindre le point plus haut pour progresser. Là, c'est vrai que le... même s'il y a un peu de backtracking et il y a un petit peu d'aller-retour, notamment si tu veux le compléter à 100%, t'es obligé de retourner dans les zones précédentes, tu t'enfonces en fait de plus en plus bas dans la planète SR388, qui est la planète d'origine des Metroid, et donc t'as une espèce de progression effectivement de haut en bas. La zone 1, c'est une zone souterraine, mais relativement à la surface. La zone 2 est un peu plus profonde, la zone 3 encore plus profonde, et ainsi de suite.
D'ailleurs, puisqu'on parle des zones, on va régler ça tout de suite, par rapport aux autres Metroid, et je pense, à part Over-M, qui était vraiment qui avait vraiment pas de personnalité. En fait, je trouve que Samus Returns a à peu près le même défaut qu'Over-M, c'est-à-dire que les zones manquent de personnalité, de vraiment en détail. Enfin, on tombe pas dans le cliché de la zone de lave, la zone de plantes, la zone aquatique. Mais du coup, on n'a pas autant cet impact dans les zones qu'on visite. On a l'impression un peu d'aller aux mêmes endroits avec peut-être une ou deux variantes grand max, quoi. C'est moi, pour moi, des premier truc qui m'a marqué, c'est qu'on n'a pas cette personnalité qu'on trouve dans les autres épisodes de la série.
C'est vrai que ça fait un peu clicheton, tu sais, d'avoir le monde de feu, le monde de glace, le monde de l'eau, le feu, le vent, de tous les éléments, bref. Enfin voilà, Earth, Wind & Fire comme d'habitude, mais l'avantage c'est que ça donne énormément de personnalité au monde, et on n'est même pas obligé de le faire, parce que je vous rappelle, un des meilleurs niveaux de Metroid tout court, de la saga Metroid, c'est la cité électronique là dans Metroid 2.
Ouais, qui est Metroid Prime 2, la forteresse, qui est très très bien.
Qui est vraiment très bien, qui a un niveau qui a énormément de personnalité, avec une architecture très particulière, des ennemis super emblématiques, enfin tout un tas. T'as vraiment une zone très 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 marquée, sans être un cliché, genre effectivement zone de lave, zone de glace. Parce que c'est vrai que dans le premier Metroid Prime, t'as Fendrana, c'est le monde de glace, Magmor, c'est le monde de lave.
Fendrala, tête de tigre.
Oh putain, mais butez-le.
Oh là là.
Je l'aime.
Ça y est, le niveau de cette émission vient de rebaisser. Bonjour. Bref, là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que comme c'est du... Mais c'était un peu pareil dans la version Game Boy, finalement. Comme c'est du souterrain, t'avais pas forcément... Puis en plus, sur Game Boy, t'avais une palette de couleurs très limitée qui faisait que...
T'avais pas de couleurs, surtout, en fait. C'était ça, le concept de Game Boy.
Il y avait une version colorée. Quand tu le mettais dans ton Super Game Boy, bah, t'avais une colorisation particulière. Et donc, il y avait un petit peu plus de couleurs que ça. Non, mais voilà, mais le fait que ce soit en monochrome, t'avais assez peu de décors, donc c'est vrai que tout avait une certaine tendance à se ressembler. Alors, je sais pas si c'est pour ça que les mecs ont décidé de faire un truc aussi générique, mais c'est vrai que dans chaque zone, tu retrouves un petit peu, finalement, des salles un peu industrielles, des cavernes un peu plus de lave. Enfin, voilà, tu retrouves un petit patchwork d'un peu tout dans tous les mondes, sans vraiment que t'aies un monde particulièrement où c'est Magmor, un monde où c'est Fendrana, un monde où c'est encore autre chose.
Après, vu le déroulé du jeu sur Game Boy, qui consiste à nettoyer une zone de ses occupants et de passer à la suivante, il y a peut-être eu moins cette nécessité, parce qu'il n'y a pas le retour en arrière qu'on a d'habitude. Et je pense que sur Game Boy, vu les limitations de la console, ils se sont permis de faire des choses un peu plus simples, parce qu'ils savaient qu'au final, il n'y aurait pas besoin de revenir en arrière. C'est vraiment une avancée continue vers les profondeurs. Et donc, Game Boy, ils ont voulu se limiter à ça. Mais c'est dommage que dans le remake, ils n'aient pas essayé de forcer un peu les personnalités des zones, quoi.
Bah, c'est dommage, oui et non, parce qu'en fait, comme tu disais, on retourne pas tellement dans les premières zones. C'est-à-dire que moi, la zone 1, j'y suis retourné pour aller récupérer 3 merdes. Genre, il y avait un truc de missile, un autre machin. Enfin, j'ai vraiment été récupérer 2 bouts et demi dans la première zone. Mais du coup, finalement, le fait que chaque zone n'a pas particulièrement de personnalité, mais t'as des salles assez diversifiées, c'est-à-dire que les salles qui sont trop chaudes, t'en as un peu dans toutes les zones. Les salles où il y a plein de plantes, t'en as un peu dans toutes les zones. Les salles un peu aquatiques, t'en as un peu dans toutes les zones. Finalement, dans une même zone, t'as un petit peu de variété en termes de décor. Pas beaucoup, je suis d'accord. T'as pas une personnalité par zone, mais t'as une espèce de patchwork dans chaque zone qui fait que, bon, tu te fais pas trop chier. Surtout qu'effectivement, une fois que t'as plié une zone, en général, tu passes à la suivante et tu y reviens que si vraiment... t'as besoin d'aller visiter telle partie sur laquelle il va y avoir une réserve de missiles ou un truc comme ça que tu n'as pas eu. Et c'est à peu près tout.
D'ailleurs, cette forme très particulière, elle a été poussée par le fait que ça soit portable, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de backtracking, etc., c'est pour s'adapter au... aux sessions plus courtes que les gens font sur portable. C'est-à-dire, les gens n'ont pas à passer 2 heures comme dans une console de salon où quand même t'es posé sur ton canapé, bon, tu pars quand même pour des sessions longues. Là, tu peux faire du backtracking, alors que quand t'es en portable, bon, tu fais une session de 20 minutes et t'as pas envie de passer 2 heures avant de pouvoir sauvegarder, quoi. Surtout que tu pouvais pas sauvegarder librement.
Tout à fait. Là, un des tout petits reproches aussi que j'ai à lui faire en termes de level design, les zones en elles-mêmes sont plutôt bien pensées. On apprécie particulièrement les téléporteurs. Je me semble me souvenir qu'il n'y en avait pas dans la version Game Boy. Je pourrais dire une bêtise, mais je l'ai fait, mais il y a longtemps. Hein, donc
moi, j'en ai pas croisé. Hein.
Il me semble bien qu'il n'y en a pas dans la version Game Boy. Et là,
non, c'était juste une descente.
Tout à fait. Là, les téléporteurs font quand même du bien, parce que même si t'as pas de backtracking entre les zones, t'as du backtracking intra-zone, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où t'es obligé d'aller, voilà. Et quand tu reviens au point de départ de la zone, donc à chaque début de zone, on te dit, bah voilà, il y a 5 Metroid dans cette zone, dès que tu les auras éliminés, tu passes à la zone suivante. Ok. Si tu reviens avec juste un Metroid de tué, donc tu vas injecter l'ADN du Metroid dans l'espèce de stèle qui est au tout début du truc, ça va te dire, bah, le Metroid suivant, il est à tel endroit. Donc t'as aussi un système d'indices qui n'existait pas dans Metroid 2, où il fallait vraiment te démerder, qui fait que, bah voilà, tu vas faire quand même quelques allers-retours si t'es pas sûr de ton coup, et le fait d'avoir des téléporteurs qui permettent d'aller d'une zone à l'autre, donc de revenir éventuellement beaucoup en arrière, ou de se déplacer très rapidement à l'intérieur d'une zone, c'est quand même super appréciable, parce que ça évite d'aller se recoltiner le niveau en long, en large et en travers, surtout pour pas y faire grand-chose de plus que ce que tu faisais avant. Et je me permets d'accueillir Méduse, qui vient
bonjour
de nous
Méduse.
Rejoindre.
Yo les gens.
Bonjour Méduse.
Voilà, qui a dit qu'il nous rejoindrait pour Metroid, et qui, comme d'habitude, arrive à la bourre.
Pour parler de Metroid.
Je suis même pas encore
Metroid.
Chez moi, là.
Mon dieu, il est en 4G. Il est en 4G sur son téléphone. C'est totalement la révolution du digital.
C'est exactement ça. Beaucoup de numérique dedans.
En attendant la révolution du doigt, donc je sais plus où j'en étais. Bref,
on parlait des zones, mais on n'a pas dit ce qu'on y faisait en fait sur cette planète à la base.
Ah, bah voilà. C'est... Donc allons-y.
Après les événements de Metroid, premier du nom, la Fédération décide d'aller buter, d'aller sur SR388. Les autres les Metroid restants, ils se font buter comme des merdes, et comme dans Capitaine Flamme, lorsque la Fédération Galactique ne peut plus rien faire, qu'est-ce qu'elle appelle ? Samus Aran.
Ce que je trouve très décevant, c'est que la Fédération Galactique, c'est quand même censé être les mecs qui sont trop forts, trop balèzes, ils ont le monopole, ils ont l'armée, ils ont le machin, ils pourraient envoyer 15 millions de soldats et 3 frégates sur la planète et la pulvériser, mais non, ils envoient une chasseuse de primes parce qu'en fait ils sont trop cons.
Ouais, mais pas de chasseuse de primes.
Ouais, non, mais d'accord, mais t'as l'air con.
Yeah, bref, en gros, l'idée, c'est qu'il y a une quarantaine de Metroid à... Donc, comme dans le jeu d'origine, hein. L'idée, c'est qu'il y a une quarantaine de Metroid à exterminer sur la planète. On découvrira d'ailleurs que c'est assez rapidement c'est pas la forme de base que l'on connaît dans le premier Metroid, mais que ces derniers peuvent évoluer. Et au fur et à mesure,
ils sont en train de muter.
Au fur et à mesure, on rencontre les différentes évolutions des Metroid qui sont de plus en plus fortes. Bon, si vous avez joué à Fusion, vous en connaissez au moins une, si vous êtes arrivé au bout du jeu. Donc tout le concept du jeu consiste à arriver dans une zone, donc les zones dont on parlait au début, à la nettoyer de tous les Metroid qui se trouvent dedans, sachant qu'on est bloqué par une espèce d'acide violet, partie de la zone qui nous empêche d'accéder à l'ascenseur qui mène à la suivante, et que pour pouvoir l'enlever, il faut ramener sur une stèle Chozo l'ADN de tous les Metroid que l'on a tués.
Voilà. Et le jeu va progresser comme ça. Donc ça, c'est, on va dire, la progression générale. Et après, moi, ce que je trouvais bien...
Jurassic Park Origins.
C'est un peu ça. Moi, ce que j'aimais bien, au niveau gameplay pur, il y a quand même quelques ajouts par rapport à la version d'origine qui était un peu aride, mais comme le premier Metroid était un jeu un peu... on va dire un peu sec.
On n'avait pas encore eu Super Metroid qui avait apporté énormément de choses.
La carte,
rendu les déplacements extrêmement fluides puisque Samus avait beaucoup plus d'idées à partir de l'épisode Super Nintendo.
Donc c'est vrai que Metroid 2 était un épisode un peu, mais finalement on va forcément faire le parallèle avec Zero Mission qui est un remake de Metroid sur NES qui est un excellent remake puisque il est à la fois familier pour les gens qui ont fait la version NES et original pour les gens qui ont fait la version NES parce que de temps en temps le déroulement normal du jeu ça devrait être ça et puis tout d'un coup les développeurs te disent haha non je t'ai coincé faut que tu te débrouilles maintenant et tu te retrouves à faire un détour dans un bout de décor qui n'existait pas à l'origine pour aller récupérer un truc. C'est vraiment super bien foutu Zero Mission pour ça. Là ce Metroid 2 ce qui va surtout apporter c'est au niveau gameplay puisque tu as un radar qui est quand même une belle nouveauté, c'est à dire que tu as une jauge de... Alors, je sais pas comment ça se prononce, on va dire Ion. Ion, ouais, c'est à peu près ce que j'aurais dit. Donc, quand on élimine des ennemis, on peut récupérer des missiles et de la vie, normal. Et on peut aussi charger une barre de Ion, qui est donc une espèce de barre de magie, en gros. Et cette barre permet d'utiliser différentes capacités de la tenue de Samus. La première qu'on récupère étant le radar, qui permet d'aller découvrir, en gros, ces 5 cases au-dessus, 5 cases en dessous. Donc, ça permet d'aller comment dire, découvrir la carte au fur et à mesure, cartographier au fur et à mesure. Tu n'as plus de salle de cartes comme tu pouvais avoir dans Metroid Prime ou dans Super Metroid d'ailleurs, où tu avais des salles de cartes qui te permettaient, c'était une des premières salles quand tu arrivais dans une nouvelle zone, en gros tu pouvais découvrir la salle de cartes qui te mettait la carte officielle du niveau, sachant qu'évidemment il y avait des morceaux qui étaient cachés que tu pouvais pas voir tout de suite. Là d'ailleurs, les morceaux cachés t'en as pas.
C'est d'ailleurs un peu dommage d'ailleurs avec ce système de cartographie, c'est que du coup il n'y a plus de passage caché.
Ouais, effectivement, puisque tu découvres tout à 5 cases autour de toi, en gros, devant, derrière, dessus, dessous.
Ça t'affiche aussi tous les blocs qui peuvent être cassés. Bon, moi, franchement, c'est pas plus mal, parce qu'il y a des fois, j'avais pas envie de chercher.
Ouais, puis même, c'est un peu pénible, parce que pour voir les blocs cachés, t'es obligé de leur tirer un missile dessus, au minimum.
Ouais, et je trouve que c'est moins facile à faire que dans Zero Mission. Alors, peut-être que je me fais des idées, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Zero Mission, mais... je trouve ça un peu plus ennuyeux à faire dans celui-là que dans... 8-2D.
Alors c'est peut-être simplement parce que, autre petite nouveauté, Samus peut maintenant viser à 360 degrés, c'est complètement la folie.
Comme la Xbox.
Comme la...
360 degrés Celsius, ma gueule.
Voilà, non 360 degrés Fahrenheit.
C'est chaud que ta daronne.
Donc tu peux en maintenant, alors c'est L, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est elle.
Voilà, tu peux viser à 360 degrés autour de toi, donc tu peux aller tirer sur n'importe quel bloc ou ennemi tout autour de toi. Quel rapport avec
Death Note ? Hein ? Ah putain, elle, ok.
Non, stop. Stop.
Mais l'écoutez pas quand il est comme ça.
Bref, donc tu peux viser à 360 degrés, ce qui est quand même sacrément agréable, parce que c'est vrai que dans Metroid Fusion ou dans Super Metroid aussi, enfin tous les Metroid 2D entre guillemets, Metroid Zero Mission pareil.
Tu peux viser qu'en diagonale.
Exactement. Tu peux viser, c'est en haut, devant toi, au-dessus de toi, et puis ensuite c'était diagonale haut, diagonale bas avec L et R si je dis pas de bêtises. Ou c'est juste L.
Ouais, c'est ça. Bah, je crois que sur Zero Mission c'était juste L sur Game Boy. Mais du coup, moi j'ai quand même gardé un vieux réflexe qui consistait à viser en diagonale et avancer en même temps, et là tu peux plus.
Ah oui, effectivement, là tu peux plus puisque tu utilises le stick directionnel. Enfin, si tu appuies sur L, en fait, Samus s'arrête bêtement pour pouvoir viser.
Tu peux avoir maintenant plusieurs fois à faire ça. Ça.
Oui, on peut pas tirer en. On peut pas viser en avançant.
Alors, tu peux viser, tu peux... non, tu peux pas viser en avançant. Si tu peux pas tirer en diagonale vers le haut en avançant.
Si, si, tu peux légèrement avec le stick, mais c'est galère.
D'accord.
Ah oui, j'avais même pas vu qu'on pouvait
avec
le stick.
Ça.
Mais comme le stick de la 3DS, c'est de la merde.
C'est pas le meilleur stick du monde. Puis en plus, tu peux pas jouer à la croix, puisque la croix est utilisée pour les pouvoirs de Lion.
C'était mon plus grand regret d'ailleurs au début. Je voulais passer à la croix rapidement.
Je trouve que ça se passe bien. Hein. Bah, c'est vrai que pour un jeu 2D, jouer avec une croix, c'est quand même plus cohérent. Mais...
disons que il y a des fois où j'aurais bien aimé l'avoir pour un peu plus de précision. C'est du pinaillage. Hein,
c'est un peu clairement. Du pinaillage.
J'aurais préféré la croix.
Autre petite nouveauté, on peut... Alors, autre petite nouveauté très pratique, je pense que ça existait dans la version Game Boy, mais je crois que c'était un peu comme sur la version NES. Tu pouvais pas passer d'un rayon à l'autre sans aller rechoper le rayon en question dans la salle où tu l'avais chopé au départ. C'est-à-dire que dans la version NES, typiquement, quand tu chopais le rayon de glace, si tu voulais rechoper le rayon normal pour une raison X, Y ou Z, bah t'étais obligé d'aller retourner là où t'avais chopé le rayon normal pour aller le re-récupérer.
Non, je crois qu'il se cumulait sur NES.
Sur NES, non. Ça, j'en suis sûr. Sur Metroid 2, je suis pas certain, mais il me semble que c'était le même système. C'est-à-dire qu'il fallait que tu retournes dans la salle où t'avais chopé le rayon plasma pour pouvoir remettre le rayon plasma si t'avais le rayon de glace. Alors, il est possible qu'il y ait un menu dans lequel on pouvait le changer. Je ne suis plus certain. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas joué à Metroid 2. Faudrait que je le refasse d'ailleurs, ce serait intéressant pour pouvoir comparer les deux. Mais là, c'est directement accessible sur l'écran tactile. C'est effectivement, il y en a un qui se cumule. Enfin, le rayon de base se cumule avec le rayon plasma. C'est-à-dire qu'au moment, le rayon de base est remplacé par le rayon plasma. Mais le rayon de glace est toujours accessible, simplement en touchant l'écran. En plus, comme c'est sur la droite de l'écran tactile, bah, c'est vachement accessible. En fait, ça fait vraiment comme un autre bouton avec lequel tu changerais juste le truc. Et j'ai pas débloqué le troisième. Je pense que t'es plus loin que moi.
Le troisième, du coup, c'est le rayon grappin. Alors, d'ailleurs, moi, c'est... D'ailleurs, je trouvais dommage de l'avoir mis là, mais bon, c'est vrai que d'un point de vue de la 3DS, c'était un peu obligatoire. Mais moi, il y avait comme c'est considéré comme un rayon où tu dois le changer, il y a des fois où tu dois alterner entre les deux et suffit que tu oublies et tu te fais niquer. Le grappin ne fait pas de dégâts du tout.
Ah, il fait pas du tout de dégâts, il s'accroche juste à des trucs.
Il fait quelques dégâts, mais quand t'as le rayon de plasma, il fait rien, quoi.
Mais c'est vrai que le rayon de plasma est quand même assez violent. Surtout quand tu commences à le charger, puis en plus, il passe à travers les murs. Ce qui offre quand même deux ou trois possibilités plutôt intéressantes.
Ceci dit, d'ailleurs le rayon de plasma est très fort, mais moi ça m'a amené à un des petits défauts du jeu, et qui est pourtant une des nouveautés de ce remake, c'est le contre, qui permet de contrer les attaques ennemies, ce qui rend le jeu un peu plus dynamique et donne un peu plus de possibilités. Mais je trouve que il y a un défaut à cause de ça, c'est que les ennemis, du coup, ben, comme c'est une nouveauté, ils te forcent un peu à utiliser. Les boss, c'est pas un souci, au contraire, c'est très bien. Et sur les ennemis de base, c'est à peu près la même logique, sauf que maintenant, eux, c'est devenu des éponges qui mettent du temps à se faire tuer, alors qu'avant, t'avançais juste en appuyant sur le rayon et tu les butais en avançant quand t'arrivais à la fin du jeu. Et ça fait partie des trucs toujours un peu frustrants où t'aimerais avancer vite et non, tu dois prendre le temps de tuer un ennemi, quoi.
Même sur la fin du jeu, parce que c'est vrai que un des principes des Metroid, alors c'était peut-être un peu moins vrai sur NES, mais c'est vrai que sur Super NES, une fois que t'avais débloqué la screw attack et la charge, tu passais à travers le jeu. Enfin, c'est vraiment les anciennes zones que tu visitais, tu défonçais tous les ennemis sans réfléchir.
La screw attack ne tue pas les ennemis de fin de jeu en un coup. Il en faut deux, tu vois. C'est ce genre de petits détails.
T'as
même des ennemis qui ne peuvent être tués qu'avec Lion qui augmente la puissance de ton rayon.
Ah putain, c'est moche.
Et le jaune. Donc tu vois, c'est des petits détails, mais. Quand on a connu la fin de Zéro Mission où tu récupères tous tes power-ups et tout d'un coup tu roules sur absolument tout le monde dans le jeu, à part un ou deux ennemis, c'est assez frustrant quand même.
Et c'est même le cas dans les Metroid Prime où quand t'avais l'armure complètement upgrade et tous les rayons complètement upgrade et toutes les charges de missiles et tous les... Et puis dans Metroid Prime 2 où t'avais la screw attack aussi, tu roulais effectivement sur tout le jeu, t'avais un sentiment de puissance absolue une fois que t'avais récupéré la dernière arme, c'était vraiment jouissif. Et la seule difficulté que t'avais, c'était effectivement les derniers boss ou éventuellement le dernier niveau, parce que c'est normal, faut quand même qu'il y ait un petit peu de challenge. Donc là, il n'y a pas ça. C'est un peu,
donc,
triste.
Disons qu'il y est moins. Le rayon plasma est quand même surpuissant, hein, on va pas se mentir. Mais tu sens que t'es un peu ralenti et que le contre y est pour beaucoup. Parce que du coup, le contre, en contrepartie, si jamais tu contres un ennemi et que tu tires dessus, il meurt instantanément.
Oui, alors juste pour
les boss, hein,
pour le mécanisme de contre, parce que pas expliqué dans le détail, en fait, quand les ennemis t'attaquent, ils se mettent à clignoter, un petit peu comme, comme dans Bayonetta. L'ennemi qui se met à clignoter, et à ce moment-là, si on appuie sur le bon bouton, bah, Samus en fait, va faire va lui donner un coup de canon dans la gueule, donc elle va pas tirer, elle va juste lui mettre une mandale. Et ensuite, l'ennemi est étourdi pendant quelques secondes, pas grand-chose, hein, c'est 5-6 secondes, quelque chose comme ça. Et Samus pointe automatiquement son gun directement sur lui, quel que soit l'endroit où se trouve l'ennemi. C'est-à-dire qu'un ennemi volant qui t'attaque, pouf, tu le contres, et elle va pointer vraiment automatiquement son fusil juste sur sa gueule. Donc il y a juste à bourriner le bouton de tir, et on finit par le tuer. Voilà. Donc effectivement, ça rend le jeu super dynamique. Maintenant, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire dans le sens où... au bout d'un moment, t'attends que les ennemis t'attaquent en fait pour pouvoir les contrer, pour pouvoir les éliminer plus facilement.
En fait, ça le rend dynamique. Ça aurait été bien de l'avoir sur un ou deux ennemis avec un peu résistant, mais ça le rend dynamique que contre les boss. Là, par contre, ça va apporter de la variété, des petites séquences assez sympas où Samus fait des acrobaties pour foutre des missiles dans la gueule d'un boss. Mais contre les ennemis de base, je trouve que ça ralentit plus le rythme du jeu qu'autre chose.
Bah, au tout début du jeu, quand t'as un rayon pas très puissant, en fait, t'es bien content de l'avoir, la riposte, parce que finalement, ça...
Ouais, mais c'est parce que les ennemis sont quand même plus résistants que d'habitude. Hein. Moi, c'est le premier truc qui m'a marqué, c'est que...
C'est des sacs à PV, ouais.
Le monstre de base, il me fallait une dizaine de tirs, alors que d'habitude, il en faut que 2-3, quoi.
Et encore 2-3, des fois, même pas plus. Mais c'est vrai que, par contre, contre les métroïdes, c'est intéressant, parce que finalement, ça rend les combats relativement dynamiques. Au sens où tu peux attaquer le Metroid sans faire de contre, tu vas pouvoir le toucher dès que tu le touches sur la surface molle en fait, verte ou bleue, tu vas pouvoir l'attaquer, pardon. Par contre, si tu arrives à le contrer, bah, tu vas lui faire une quantité de dégâts absolument énorme en très très peu de temps. Donc c'est vrai que c'est super intéressant, ça rend les combats dynamiques, surtout qu'ils sont... pas facile du tout les combats contre les Metroid. Moi, à chaque fois que j'ai fait un game over, c'était systématiquement contre un Metroid.
Ça m'est souvent arrivé de mourir contre eux, et pas parce que finalement c'est difficile, c'est parce que ils font quand même très mal, hein, les Metroid dans le jeu, et ça demande un minimum de timing pour bien éviter les coups, parce que y a des fois ils te laissent quand même pas beaucoup de chance. Et les combats sont plutôt cool, et surtout ils se renouvellent de manière générale avec les différentes formes ou les environnements dans lesquels tu te trouves.
Oui, mais tu restes toujours sur à peu près la même forme, ce qui est presque un peu décevant entre guillemets aussi, mais c'était le défaut du premier, c'est que finalement on te donne un objectif au départ, on te dit voilà, il y a 40 métroïdes, faut les tuer. Effectivement, les derniers sont plus puissants, mais il y en a quand même beaucoup qui se ressemblent. Alors, il y en a qui sont un peu différents, il y en a qui sont électriques entre guillemets. Il y en a qui sont de feu, il y en a qui sont de glace, mais finalement... Bon,
de glace, c'est pas possible, par contre.
Ah non, de glace, non, effectivement, j'ai dit conneries. Mais, en tout cas, les 20 premiers...
Allô ?
Allô ?
Il a coupé ?
Ouais. Ah.
Mortal,
on ne t'entend plus.
Dieu te parle.
Allô,
il a fait un AVC.
On l'entend.
Oui.
Allô, excusez-moi.
Pas après, Mortal.
Donc, je disais ce que je trouve un petit peu dommage. Il faudra couper ça au montage. Voilà. Je mets une petite note.
Tu vas pas le faire encore.
Mais la dernière fois, je l'ai fait.
Il l'a fait la dernière fois.
Attends. Donc là, il faudra couper au montage. Donc, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que finalement, même les 20 premiers Metroid, ils se ressemblent quand même beaucoup. Il y a des petites variantes dans leurs attaques et autres. Mais finalement, ils ont à peu près toujours la même gueule. Je sais pas si ça progresse un petit peu après.
Si, ça progresse. T'es à quelle zone, là? Tu te souviens?
Je suis à la zone 3, je crois. Au tout début, ouais, de la zone 3 ou 4.
Pour moi, la zone 3, c'est celle où il y avait un peu ce sentiment de lassitude, parce qu'en fait, tu n'as vu que deux types de Metroid à ce moment-là. Et dans cette zone, je crois qu'il n'y en a pas vraiment de nouvelles. Ça se varie un peu plus à la... En fait, surtout, c'est la zone où tu en as le plus à tuer, je crois. Et du coup, ça devient vite répétitif et redondant sur celle-là. Je trouve qu'après, le jeu commence à repartir à nouveau avec plus de variété, plus de situations. Il y a aussi des boss en plus, je crois, par rapport à l'original. Bon, ça te prie. Mais c'est vrai que cette zone 3 est un peu le ventre mou du jeu, je trouve.
Bah, c'est-à-dire que la zone 1 est sympa parce que tu découvres et tout ça, et c'est assez dynamique. La zone 2 est un peu plus étendue et c'est plutôt sympa aussi. Enfin, elle est plus grande, il y a notamment une très 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 grande salle qu'au départ je pensais pas qu'elle était interconnectée avec une autre grande salle. Enfin, c'est vraiment... Le level design est plutôt bien foutu de ce point de vue-là. On est obligé de faire pas mal d'aller-retour, mais pas trop. On récupère le rayon de plasma, on récupère le rayon de glace, enfin... fait quand même pas mal de choses, mais c'est vrai que tu commences à sentir que voilà, ça, il y avait peut-être 10 Metroid de trop dans le jeu finalement. Ils auraient peut-être mieux fait de couper cette zone là, ou peut-être de la subdiviser en deux zones, ou peut-être de rajouter d'autres choses. Je sais pas exactement. Le problème de ce genre de remake, c'est qu'effectivement, il faut respecter l'esprit du jeu original, ce qui est pas toujours évident. Surtout, il faut arriver à compenser les défauts du jeu original, mais sans trahir l'œuvre de base. Et j'ai l'impression quand même que Metroid 2, même si c'est un très bon jeu, j'ai pas de doute là-dessus, ben ça a plutôt pas super bien vieilli, et c'est pas forcément très évident d'arriver à reprendre le truc et de se dire bon, que comment est-ce qu'on arrive à le remettre à la sauce moderne, mais sans trahir l'esprit original. Zero Mission, je trouve, l'avait très bien fait. J'ai l'impression que Metroid Samus Returns, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Alors, le jeu est très bon, hein, j'ai pas de soucis là-dessus, il n'y a pas d'équivoque, il est vraiment tout à fait sympathique, parfaitement jouable, pas de soucis là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il atteindra pas le niveau d'excellence d'un Zero Mission, je sais pas ce que t'en penses.
Pour l'avoir terminé la semaine dernière, je trouve qu'effectivement, on sent qu'il est un petit peu plus timide, il prend un peu moins de risques. Alors Metroid 2, ça reste quand même un épisode extrêmement important dans, on va dire, la chronologie de la série, puisque c'est le seul à l'heure actuelle où on voit toutes les versions des Metroid, et où on est sur SR388, même si Fusion se passe pas très loin. Je pense que c'est déjà un épisode qui est pas très évident à faire un remake, parce que la version d'origine est assez aride, on va dire. Mais j'ai pas autant ce sentiment de réussite que j'avais en jouant à Zero Mission, qui est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Très content de refaire un Metroid en 2D après tant d'années, et c'est un cran en dessous, et je trouve qu'il y a des ajouts qui sont un petit peu maladroits. Donc je parlais du contre, le dernier affrontement du jeu est pour moi totalement hors sujet, mais je vais pas en dire plus parce que ce serait gâcher la surprise. Et du coup, je trouve que peut-être voulu rajouter des trucs qui n'étaient pas vraiment intéressants, et au lieu de se concentrer sur des éléments qui auraient, je pense, apporté un peu plus au jeu, quoi.
Il y a JBC qui dit, lorsque l'objectif d'un Metroid, c'est juste des 1,50 Metroid sans revenir sur tes pas, il y a un problème quand même.
C'est le jeu qui est comme ça, c'est le jeu, Metroid 2 ouais, voilà, comme ça.
Le Metroid 2 est comme ça, donc je suis d'accord avec JBC, c'est-à-dire que c'est pas un... Enfin, faut voir aussi que Metroid 2, c'était le deuxième. C'est quand même l'époque où, entre Zelda 1 et Zelda 2, il y a un monde. Hein. Je veux dire, c'est vraiment... les jeux n'ont pas grand-chose à voir entre eux.
C'était l'époque où tu faisais un numéro 2 et t'hésitais pas à tenter un petit peu autre chose, quoi.
Je pense qu'il y avait ce côté, effectivement, tu pouvais te permettre de tenter autre chose parce que finalement, les gens étaient peut-être un peu moins... des gros trolls de l'internet, que si tu fais pas une version 1.5 ils gueulent parce que c'est trop différent, mais que si tu fais une version 1.5 ils gueulent parce que c'est une version 1.5.
Mais il y avait cette idée où finalement les franchises n'étaient pas encore établies, tu savais pas encore quelles étaient celles qui allaient être le moteur des sorties de jeux, du coup tu pouvais te permettre de faire ce genre de choses, et la majorité des jeux étaient prévus pour faire qu'un épisode, en fait. Ils pensaient pas faire une suite au moment de la création du premier, à ce qu'on peut faire maintenant avec des séries comme Assassin's Creed ou Uncharted, quoi.
Mais... voilà, où il y avait la trilogie de prévue dès le départ.
Globalement.
Surtout que c'est pas un Metroid, d'accord, mais c'est comparer deux choses qui sont pas faites pour le même support, quoi. Encore une fois, genre c'était pas les mêmes attentes pour les deux jeux. De part déjà leur support de base, du coup.
Oui, effectivement,
c'est pas un Metroid, d'accord, mais bon,
on est sur un jeu portable, donc forcément, faut s'adapter maintenant.
Quand tu regardes Metroid Fusion, il est aussi linéaire que Metroid 2, voire plus. C'est un jeu qui est de mémoire assez apprécié de la communauté. Metroid, après, on a l'extrême avec Overheim qui est globalement un couloir.
De la merde.
Aussi. Vraiment niqué par son scénario, mais ça en fait pas moins Metroid, en fait.
Il faut savoir si Metroid c'est avant tout un univers ou c'est avant tout un gameplay. Si effectivement tu dis que le modèle de base qui doit être suivi c'est la version NES, et on va dire la supérieure version qui est la version Super NES, qui est sans aucun doute là où il y a le plus de merde, de trope de la série Metroid qui ont été figées.
Globalement, la Super Metroid, c'est un peu devenu la référence de la série à l'heure actuelle.
Voilà.
Pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, puisque référé à celui-là, et c'est un peu compliqué de faire un petit peu autre chose au niveau de la série, quoi.
Bah, dès que tu essayes de faire un truc un petit peu différent, genre Other M, qui a beaucoup de défauts, je vous suis là-dessus, j'ai pas de soucis, le scénario, par exemple, bah, c'était pas indispensable, il y a tout un tas de trucs qui sont un petit peu incohérents de ci, de là, mais qui, globalement, je veux dire, le jeu s'appellerait pas Metroid, il s'appellerait Les Aventures de la Super Aventurière de l'Espace,
et il aurait été fait...
Ça suffit, tout. Il aurait été fait par Microsoft sur la Xbox, ça aurait été le jeu de l'année, quoi. Donc faut arrêter de déconner aussi, il est pas si mauvais que ça, si tu le prends dans l'absolu, c'est pas un mauvais jeu. Maintenant, effectivement, pour un Metroid, c'est surprenant. Mais quand on dit pour un Metroid, voilà, à l'époque de Metroid 2, il n'y avait pas de pour un Metroid, il y avait le premier, qui effectivement avait une certaine structure, le deuxième, qui a essayé quelque chose d'un petit peu différent. Et finalement, Metroid 3 est revenu à une structure un peu plus... est revenu à une structure du premier en essayant de l'améliorer énormément, et puis voilà.
Et puis en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que à défaut d'avoir un grand monde à visiter où on peut se paumer et revenir en arrière, en fait, dans ce Metroid-là, ça s'applique aux petites zones qu'on visite. Et au final, on se retrouve à visiter les zones pour trouver les upgrades qui nous permettent d'accéder au Metroid qu'on n'a pas encore tué. On a eu un objet qui nous permet d'accéder à telle nouvelle partie de la zone qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est finalement la même chose qu'un Super Metroid, mais dans des zones beaucoup plus restreintes.
Oui, du coup, comme disait Galaxis, peut-être plus adapté à un format portable, c'est-à-dire qu'effectivement, tu es capable de faire un petit aller-retour, tu es capable de faire finalement un Metroid miniature, donc une boucle de gameplay de Metroid miniature dans une zone où tu vas aller chercher une arme, buter un Metroid, faire du backtracking, mais par un autre chemin que tu as réussi à ouvrir grâce à cette arme et revenir à ton point de sauvegarde, ça t'a pris un gros quart d'heure, tu sauvegardes sur ta Game Boy, tu l'éteins, et puis tu reprends le bus pour aller à l'école.
Ouais, et puis... Pour revenir à ce que vous aviez dit juste avant par rapport à Metroid Fusion, qui est aussi sur portable et qui a la structure d'un Metroid classique, entre guillemets, très honnêtement, je l'aurais fait sans émulateur et donc sans sauvegarde, la sauvegarde quand j'éteins ma partie, j'aurais dû faire le test, j'aurais mis que les sauvegardes, c'est un défaut, quoi. Parce que les sauvegardes, t'en as pas si souvent que ça, et si peu que tu fasses avec ta Game Boy, bah, dans le bus, quoi, typiquement. Une session de 20 minutes, t'es obligé de la laisser allumer parce que t'as pas atteint le point de sauvegarde qui est 5 minutes plus tard, et donc du coup, bah, tu vas devoir te retaper 20 minutes.
Alors, il faut savoir aussi que Metroid Fusion, on va malheureusement déborder un petit peu sur l'émission de la semaine prochaine, mais c'est pas trop grave. Metroid Fusion était un des premiers jeux à sortir au moment où la Game Boy Advance SP était disponible, et donc tu pouvais mettre ta Game Boy Advance SP en veille.
Oui, oui.
Il est pas sorti avant la Game Boy Advance SP, mais il y avait un mode veille intégré.
Il est sorti avant la Game Boy Advance SP, il y avait un mode veille intégré, mais quand tu clapais ta Game Boy Advance SP, normalement ça mettait en veille.
Ah, je me souvenais plus.
Oui, il me semble, hein, mais je pourrais dire une bêtise. Chaminou pourra nous confirmer, puisque Chaminou est notre grand spécialiste de ce genre de détails à la con. Mais sinon, effectivement, il y avait un mode veille qui permettait en fait de...
Ah, donc il servait à ça.
Bah oui.
Parce que oui, j'ai vu le mode veille et je ne savais pas quoi. Mais donc du coup, ça montre bien qu'ils étaient conscients du problème de sauvegarde.
Ah mais je pense qu'ils étaient conscients du fait que c'est pas toujours facile. Il y a une séquence dans Metroid Fusion, on va vraiment déborder sur l'émission de la semaine prochaine, mais c'est pas trop grave, ce dont on parlait un petit peu en off.
Bah très légèrement alors.
Il y a une séquence à un moment dans Metroid Fusion où on se retrouve avec quasiment pas de vie, à poil, poursuivi par le Saïx.
C'est pas la séquence où la station est envahie par les plantes?
Ouais, je crois que c'est ça. Il y a un moment dans Metroid Fusion où en fait c'est vraiment le stress parce qu'effectivement t'as pas de vie, t'as pas de munitions, t'es poursuivi par le machin qui peut te tuer en un coup, les salles de sauvegarde ne marchent pas. T'es en mode, c'est la méga panique et ça dure un bon moment en plus. Hein, c'est-à-dire que,
un bon moment dans un jeu qui dure 5 heures, mais un bon moment, oui.
Ça dure, je sais pas, une bonne demi-heure. Mais du coup, c'est une demi-heure pendant laquelle t'es en stress, parce qu'effectivement, tu peux rien sauvegarder, tu peux rien faire, tu peux... Voilà, c'est... Mais je pense que c'est le seul moment, véritablement, où t'as pas un point de sauvegarde à moins de 2 minutes de toi. Il y en a vraiment très, 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 très régulièrement.
Ah, non, à part à ce moment-là, j'ai pas tellement eu de problème.
Pas si régulièrement. Parce que même au début, quand on allait... Parce que du coup, bah, je refaisais le début en boucle, vu qu'évidemment, je perdais ma sauvegarde à chaque fois, sinon c'est pas drôle. Au début, le moment où on doit nettoyer, je crois, les 4 ventilateurs, c'est pas ça? C'est l'aération.
Si, tout début, mais ça, c'est vraiment le... Alors, c'est vraiment
la première mission.
C'est vraiment jeu, tout début. C'est quand même... je sais pas, genre... 10-15 minutes où t'es 100 points sauvegarde et donc tu dois faire d'une traite.
Enfin, 10 minutes, c'est pas grand chose.
Bah, c'est pas grand chose, mais enfin, en portable, ou genre quand t'es dans le bus 5 minutes, tu veux te faire un truc, c'est pas ce genre de jeu quoi. C'est pas taillé pour le portable.
C'est un peu plus taillé pour le portable qu'un Metroid Prime dans lequel tu peux enchaîner une demi-heure, 40 minutes sans avoir de point de sauvegarde.
Ah bah oui, non mais totalement. Il fallait quand même s'adapter un minimum à son format, mais je pense que Metroid 2 était...
Ça me paraissait plus raisonnable. Peut-être que Metroid 2 est plus raisonnable. Maintenant, Metroid 2 sur Game Boy, t'avais pas non plus un point de sauvegarde toutes les 5 minutes. Hein. Fallait backtracker et tout ça.
Oui, c'est vrai, mais je sais pas, je trouve que... Je l'ai pas fait personnellement, mais j'ai vu une vidéo donc en parlait, et qui parlait des deux remakes, qui le présentait, qui c'était peut-être un peu biaisé évidemment, parce que ça servait le propos quoi, mais qui en parlait comme quelque chose où tu peux te faire une petite salle en même pas, je sais pas moi, en genre 5-10 minutes, et puis tu sauvegardais quoi.
C'est bien possible. En tout cas, c'est vrai que sur le Metroid Samus Returns, je trouve que l'emplacement des points de sauvegarde est quand même un truc un peu curieux.
Oui, c'est très étrange. Enfin, moi, il y a des fois, je me dis, mais il doit y en avoir un là, alors que enfin, c'est logique qu'il y en ait un là, il n'y en a pas.
Tout à fait, et puis il y a des fois, bah, t'en as 4 qui sont éloignés à...
3 salles d'écart. Hein.
Ouais, 2 salles d'écart maximum. Et même dans la progression normale, je mets des gros guillemets du jeu, c'est-à-dire, il y a quand même... Même si c'est une structure relativement ouverte... Il y a quand même une progression normale, c'est-à-dire que la logique veut que tu puisses visiter les salles que dans un certain ordre, parce que tu vas pas avoir forcément tous les pouvoirs pour aller faire n'importe quoi n'importe où. Mais même dans cet ordre normal, il y a effectivement des fois où il y a des salles de sauvegarde, bah tu te demandes ce qu'elles foutent là. Autre petite particularité d'ailleurs, quand on meurt à certains... Il y a des checkpoints à certains endroits qui n'existaient pas dans la version d'origine, évidemment, on reprenait au point de sauvegarde.
Avant et après chaque affrontement avec des boss normales.
Exactement. Avant et après l'affrontement avec chaque Metroid, il y a un petit checkpoint, ce qui fait que si on se fait tuer par le Metroid, en réalité on reprend exactement au combat et pas à la sauvegarde précédente.
Et si on se fait tuer après le Metroid, et ils sont rarement à côté des points de sauvegarde, on se retrouve avec... on reprend après le combat.
Oui, voilà, donc c'est pas... Je pense que l'objectif c'était de limiter un peu la frustration, alors je sais pas s'ils se sont loupés complètement sur les points de sauvegarde, est-ce qu'ils auraient dû mettre un système de sauvegarde un petit peu, de signer un peu comme dans Fire Emblem où tu peux sauvegarder à n'importe quel moment, mais une espèce de sauvegarde rapide qui ne fonctionne qu'une seule fois, peut-être. Ça aurait peut-être été plus malin. Bon, là, c'est vrai que sur 3DS, c'est moins gênant parce que quand tu clapes ta console en veille, elle consomme quasiment plus rien, donc tu peux continuer à. Tu peux reprendre ta partie un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que bon, le level design était plutôt bon, il y a plein de choses qui étaient bien pensées. Mais la répartition des points de sauvegarde, je la trouve un peu merdique. Autant les téléporteurs, je les trouve plutôt bien placés, bien intelligemment faits et ainsi de suite. Surtout que tu es obligé d'aller les débloquer pour pouvoir les utiliser. Donc c'est vraiment spécial backtracking, spécial déplacement rapide dans les niveaux quand t'as fini. Donc plutôt pratique, plutôt bien fait, plutôt bien pensé. Mais les points de sauvegarde, il y a des fois t'as plus vite fait d'aller chercher le téléporteur le plus proche pour revenir au tout début pour aller sauvegarder, ce qui est quand même un peu délirant je trouve.
C'est un peu un comble. D'ailleurs, un autre petit défaut de level design, je trouve qu'on a moins ce côté, c'est peut-être une conséquence du radar, tu me diras, et on a moins ce côté d'avoir l'impression de passer par des chemins de traverse pour aller à des objectifs. À chaque fois on prend le chemin qui était prévu plutôt que d'essayer de trouver un truc un peu alternatif, en utilisant un missile quelque part ou en enchaînement de bombes. C'est que je trouve un peu dommage, on a moins cette appropriation du monde en fait.
Bah, en même temps, enfin, oui et non, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que tu as moins cette impression effectivement d'avoir découvert un passage secret quoi, en gros, que tu pouvais avoir dans un Zéro Mission par exemple, même si la plupart des passages secrets que tu trouves dans Zéro Mission étaient parfaitement prévus dans le pathfinding du jeu, en gros.
Y compris la possibilité de gruger une partie du jeu qui était prévue par les développeurs. Ils avaient mis un message caché dedans.
Oui, donc ça fait, t'as vraiment des trucs assez exceptionnels là-dedans. Donc tu pouvais avoir cette impression-là. Maintenant, je trouve que le radar a des mécanismes intéressants aussi, parce que le fait de cartographier toi-même, c'est peut-être un peu plus... Bah, disons que moi, le concept de dire on arrive à la salle de cartes, ça ouvre toute la carte, et puis c'est tout. Alors, effectivement, c'est pas vrai, parce qu'il y a toujours des petits passages secrets, des machins qu'il faut que tu regardes attentivement dans le décor pour les trouver. Ok. Mais je trouve que le principe de cartographier, c'est-à-dire de dire je suis à un endroit, je sais pas où je suis, pouf, je m'envoie un coup de radar... Ah oui, tiens, il y a une pièce en haut, il y a un truc en dessous. Bah, c'est pas inintéressant. C'est... Ça revient un petit peu au sentiment que de dessiner sa propre carte, mais qui serait un peu plus interactive et un petit peu plus pratique à utiliser, quoi. Parce que c'est vrai que dessiner sa propre carte dans Metroid sur NES, bon. Voilà, c'est vite un peu lourd. C'est vrai que c'est le genre de jeu, si aujourd'hui tu dois le refaire, vaut mieux le refaire avec une vraie carte. Ça coûte pas grand chose, ça simplifie la vie. Ça empêche pas de galérer un petit peu. Puis elle n'est pas interactive. Mais voilà, je trouvais que il y avait un juste milieu intéressant entre laisser le joueur dessiner sa propre carte, lui filer directement la carte et le laisser trouver que les passages secrets. Donc c'est vrai que c'est agréable de trouver des passages secrets parce que... Enfin voilà, il y a le côté un peu excitant du truc. Mais voilà, il n'y avait que ça à trouver. Là, finalement, le fait de cartographier, je trouvais ça plutôt sympa comme mécanique.
Oui, oui, non, la mécanique me dérange pas. Et au contraire, je la trouve plutôt sympa parce qu'elle est optionnelle, en fait. C'est ça qui est intéressant.
C'est que oui, rien ne te force à t'en servir, en fait. Tu es obligé d'utiliser, donc tu peux y aller en mode hardcore si t'as envie.
Mais c'est-à-dire que... C'est juste le level design, de manière générale, qui me donnait moins cette impression de trouver des trucs, et que c'était en fait là où... C'était placé là où je devais aller, en fait. Bah, après, ouais, peut-être que je suis habitué à Metroid, ouais, aussi.
Bah, il y a aussi un peu de ça, hein. Je pense aussi.
C'est vrai qu'après Super Metroid, qui te disait pas du tout où aller...
Bah là, on te dit quand même pas énormément de trucs...
T'as quelques indices, c'est vrai. Mais c'est vrai que tu es quand même assez libre d'explorer quand t'arrives dans une zone, ce que j'ai à chaque fois trouvé très agréable.
Tout à fait. Galaxy, si tu voulais...
Ouais, je voulais demander le système de cartes, c'est-à-dire que c'est que du radar.
C'est que du radar, oui. Il n'y a pas de salle de cartes, c'est vraiment que du radar.
La carte se dévoile quand t'explores, évidemment, et tu as le radar qui va dévoiler autour de toi si tu décides de l'activer.
Sachant d'accord. que t'es absolument pas obligé de le faire.
Et donc du coup, c'est-à-dire que le radar, ça te met toutes les informations comme si t'avais visité ça là.
Exactement.
Ok, bah c'est intéressant ça comme...
Et d'ailleurs, petit point intéressant pour que je trouve aussi qui était vraiment bien vu et pour le coup c'est pas du tout indiqué. Si tu n'as pas toutes les ADN de Metroid et que tu reviens quand même à la stèle pour, où oui. tu dois les mettre,
il t'indique
l'emplacement du suivant. Enfin,
D'un de ceux que t'as pas buté, sachant que l'emplacement est souvent un petit peu approximatif.
Oui, en fait, il t'indique pas l'emplacement du Metroid en lui-même, mais
de Samus. Voilà. Alors Samus, c'est pas Samus, hein, c'est pas Samus Aran. Hein. C'est-à-dire que les Metroid mu pour ce, enfin la forme de base qu'on connaît, qui est l'espèce de comment dire, de scrotum avec des dents, hein, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, mu pour se transformer en d'autres trucs. Et en fait, c'est cette mu là que t'indique la stèle. Donc effectivement, on te donne pas l'emplacement, on te dit pas faut aller là, il est là le Metroid dans cette salle. On te dit bon, il y a une mu là, donc il doit pas être très loin.
T'aimes
faut
pas même te démerder pour aller la trouver. Jeu, hein.
Bah, c'est quand même plus agréable quand tu peux découvrir.
Oui, c'est vrai.
Non, c'est bien, il te donne des indices sur là où aller, et c'est quand même à toi de te démarrer pour y arriver, et après trouver ta cible dans la région.
Voilà, donc il y a quand même un petit côté, même si on te donne un indice assez flagrant, tu te débrouilles quand même un petit peu tout seul. Bref, nous allons peut-être conclure, parce que là il commence à se faire tard.
Yep.
Donc Antix, qu'est-ce que, au global, tu en as pensé ? Je veux dire, un mot de la fin.
Comme je l'ai dit, moi, ça a été un grand plaisir de rejoindre un Metroid 2D après toutes ces années. N'ayant pas joué à l'original, je peux pas juger de la qualité du remake, mais je trouve quand même qu'il y a des idées qui étaient un peu maladroites. Pas toujours bienvenu. Donc ça, c'est un peu ma déception. Mais on a quand même un jeu qui vaut largement le coup si on aime les Metroid 2D, les jeux d'exploration, et vu la qualité du résultat final, j'espère qu'ils arriveront à faire quelque chose d'au moins aussi bien, voire de mieux, et d'un peu moins sage pour Metroid Prime 4.
Drosgar, éventuellement un petit mot à rajouter sur Samus Return. Est-ce qu'on t'a donné envie d'y jouer, par exemple ?
Bah, je l'ai, et j'ai envie d'y jouer, vous m'avez encore plus donné envie d'y jouer, mais putain, il manque tellement de temps en ce moment pour tout faire. Donc, lorsque le choix, c'est aller aux toilettes ou jouer à Samus, en sachant que je peux pas faire les deux en même temps...
Mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Justement, Metroid, c'est le jeu idéal pour jouer aux chiottes.
Ce dilemme cornélien.
Je sais pas ce que je fais aux toilettes.
Je ne veux pas savoir. Galaxy, est-ce qu'on t'a donné éventuellement envie de jouer soit à Metroid 2, soit à Samus Return? Parce que toi, tu l'as peut-être pas, du coup.
Tout, bah, le même problème, c'est la console, MDR, parce que bon, les jeux, à la limite,
il y a très bons émulateurs 3DS maintenant. Hein.
Mais ouais, le problème. Ouais, non, mais il y en a des pas chers, mais bon, ça fait quand même 80 balles pour une 2DS ou machin. Et donc, du coup, voilà, ça me bloque, mais sinon, très honnêtement, ça me fait envie, ça me donne encore plus envie de jouer aux anciens. Qui eux, pour le coup, bon, je peux les, même sur mon téléphone, je peux les avoir. Même si je suis pas tellement fan du tactile, mais ça, c'est autre chose. Ouais, vraiment, ça donne envie. Et ça a l'air d'être d'un bon remake. Et enfin, bien fait, genre, pas seulement un vieux truc graphique où c'est soi-disant HD, mais ils ont foutu des 3 polygones en plus.
Oui, c'est pas le HD remaster machin.
Oui,
c'est
HD vraiment, remaster.
Il y a eu un boulot quand même pour rafraîchir le gameplay de toute façon.
We are proud to announce that it's in 1080p.
Tout à fait. Ce qui pour un jeu qui a 25 ans est quand même à mon avis le minimum, hein, de toute façon il faut quand même moderniser un peu la formule. Zergy, un petit mot sur Samus Returns, est-ce que ça t'a éventuellement donné envie de rejouer à Metroid 2 ou éventuellement de ressortir une copie d'AM2R?
Non, pas plus que ça parce que j'ai pas de 3DS.
Moi ceci dit, ça m'a quand même donné une énorme envie de rejouer à Zero Mission.
Oui, je suis assez d'accord. J'y avais rejoué il y a pas longtemps, d'ailleurs je l'avais twitché Zero Mission, et c'est vrai que on avance vite, c'est super agréable à parcourir, ça surprend toujours, donc je pense que Zero Mission est vraiment, fait partie des très 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 bons Metroid.
Bref. La challenge, le mode difficile de Zero Mission, il est balèze.
Voilà, faut t'accrocher. On va pas trop déborder sur l'émission de la semaine prochaine, qui sera donc une rétrospective Metroid, messieurs.
Ouais,
Metroid.
Metro quoi?
Metroid, voilà.
Metro 2 ou Metro 3?
On va parler donc de Metroid, de Super Metroid, forcément, de Metroid Fusion, mais aussi des remakes, donc Metroid Zero Mission. On ne parlera évidemment pas de Metroid Samus Returns, parce qu'on vient de consacrer une émission entière à ce jeu-là.
Et
on
reparlera
un petit peu de Zero Mission. J'hésite, en fait, entre Metroid et Metroid Prime. Je ferais bien une rétrospective Metroid Prime, mais le problème, c'est que, à mon avis, ça nous occupe déjà une bonne émission à lui tout seul.
Hein. J'ai envie de dire, si on doit déjà faire les 4 épisodes principaux plus OverM, on en a pour un petit moment.
Non, voilà. Non, OverM, on peut s'en passer.
Ah, si, il faut en parler. Faut dire qu'est-ce qui a pas marché. Beaucoup de choses.
C'est beaucoup de choses, mais effectivement, c'est pas inintéressant. Voilà.
Voilà, c'est comment ne pas faire un Metroid.
Du coup, comme on n'arrive pas à décider, on fera une rétrospective Far Cry la semaine prochaine.
C'est exactement ça.
Ubisoft Ignoreur.
C'est ça, Ubisoft.
Connaissez-vous Ubisoft, notre
arrêtez,
maître à penser?
Ah ben...
Stop. Rétrospective Just Dance.
Voilà, donc faire une rétrospective Metroid, soit Metroid Prime, soit les épisodes Metroid classiques, sachant qu'on peut très bien couper l'émission en deux morceaux. Mais ça me pose pas plus de problèmes que ça.
Comme au Moyen-Âge.
Il y aurait de quoi...
couper les gens.
Il y aurait de quoi faire une émission, à mon avis, entière sur Metroid et Zero Mission. Rien que ça, et puis une émission à mon avis entière sur Super Metroid, donc voilà, soit on va essayer de condenser tout en une seule émission, mais en étant vraiment très guidé, très sur des rails, soit on essaiera peut-être plus de parler de Metroid Prime, qui à mon avis peut tenir effectivement sur une seule émission, on verra, on y réfléchit, en attendant on vous fait des bisous, et à la semaine prochaine, ciao.
Bye.
Moi je fais pas de bisous personnellement, mais bisous quand même.
Voilà.
Bisous.
J'ai le sida.